Here's a song that comes from Tanzania.
Galère, galère, bonjour, émission Livres et Amis du 7 juillet. Nous sommes aujourd'hui Françoise et Dominique pour vous lire un livre d'Ignacio Ramonet, Propagande silencieuse. En attendant, peut-être donner quelques nouvelles de Marseille. Donc, notre belle ville reprend des couleurs un petit peu moins sombres et un petit peu moins confinées, puisqu'on a de nouveau des festivals, des spectacles, des animations, en particulier les animations du Toit Terrasse ont repris à la Friche, avec des projections le dimanche soir. Et cette année, les projections du Toit Terrasse le dimanche soir ont pour thème l'Afrique. Ça a commencé depuis déjà deux fois et ça va continuer pratiquement tout l'été. Voilà, retour à Propagande silencieuse, ce livre qu'Ignacio Ramonet a écrit en 2000, qu'il a actualisé en 2004, qui est paru chez Folio Actuel et qui a pour sous-titre « Masse, télévision, cinéma ». En fait, c'est la campagne électorale de ce mois de juin qui m'a fait ressortir de ma bibliothèque le livre de Ignacio Ramonet. Vous vous en souvenez peut-être, longtemps rédacteur en chef au Monde diplomatique. Un ami m'a dit, à propos des mensonges avérés de certains candidats de cette campagne, « Mentez, calomniez, il en restera toujours quelque chose ». Alors, ces mensonges construits et cohérents, eh bien, dans le livre d'Ignacio Ramonet, ce sont ceux du pouvoir politique américain, transmis par la télévision et par le cinéma. Ces mensonges, ils font l'objet dans le livre d'une analyse et d'une dénonciation. Et c'est ce qui m'a intéressée, c'est de voir comment on pouvait démonter et expliquer tout ça. D'abord, du cinéma, ou à propos du cinéma, Ignacio Ramonet cite cette définition donnée par Marshall McLuhan. Le cinéma construit des cités fantômes peuplées de faux-semblants. Et derrière les faux-semblants, l'idée banale de fiction, mais aussi de leurre, de tromperie, de propagande, reposant dans bien des cas sur l'idéologie à transmettre. Voyons donc sa présentation.
Ce livre est un récit de voyage dans l'archipel de ces cités fantômes. Avec le tâtonnement propre à ce genre d'exploration, il décrit la configuration discrète des faux-semblants et leurs ambitions vraisemblables. En d'autres termes, il voudrait indiquer comment, dans notre univers où quiconque s'accorde à reconnaître que les images de cinéma, de télévision surtout, prolifèrent, celles-ci croisent et reflètent parfois la vie publique s'entend, autrement dit, l'air du temps, et donc notre vie quotidienne, personnelle, intime. En particulier, il voudrait signaler comment sur des questions politiques graves ou à des moments historiques forts, la télévision et le cinéma de masse ont élaboré des images spécifiques ajustées à un dessin idéologique et destinées à accompagner comme une prothèse symbolique la sensibilité collective. Soit en dramatisant les préoccupations dominantes, soit au contraire en euphorisant la conjoncture. Notre méfiance à l'égard de l'industrie culturelle et de sa propagande silencieuse repose fondamentalement sur trois craintes. Qu'elle réduise les êtres humains à l'état de masse et entrave la structuration d'individus émancipés, capables de discerner et de décider librement. 2. Qu'elle remplace, dans l'esprit des citoyens, la légitime aspiration à l'autonomie et à la prise de conscience par un conformisme et une passivité périlleusement régressive. 3. Qu'elle accrédite enfin l'idée que les hommes souhaitent être fascinés, égarés et trompés, dans l'espoir confus qu'une sorte de satisfaction hypnotique leur fera oublier un instant le monde absurde, cruel et tragique dans lequel ils vivent. On n'ignore plus que les médias audiovisuels de masse sont contrôlés par des méga-groupes industriels au sein desquels se concentrent les grandes firmes planétaires désormais liées à Internet, à la téléphonie, à l'informatique, à l'énergie, à la publicité, au sport, à la banque, etc. Les grandes firmes multimédiatiques actuelles résultent de concentrations ou de méga-fusions comme celle d'America Online avec Time Warner CNN ou de Vivendi avec Havas Canal Plus et Universal Seagram. Ces groupes titanesques produisent non seulement des films et des programmes télévisés, mais ils éditent aussi des livres, des magazines, des journaux, des CD, des cassettes vidéo, des jeux vidéo, des DVD, etc. Ils possèdent à la fois, à travers le monde, des licences de téléphonie, des labels musicaux, des chaînes de télévision, des équipes de football ou de basketball, des studios cinématographiques, des portiques d'accès à Internet, des agences de publicité.
Oui, c'est le premier point, bien connu, mais toujours utile à rappeler, la mainmise des grands groupes américains en particulier, sur les médias audiovisuels. Et cette mainmise, de façon totalement complémentaire, elle est à la fois financière et idéologique.
On sait que les États-Unis, qui ne produisent que 5% des films réalisés dans le monde, perçoivent plus de 50% de toutes les recettes cinématographiques mondiales. Dans le système actuel, les œuvres filmiques trop originales ou trop personnelles ne sont point encouragées. En revanche, les nouveaux géants médiatiques stimulent les sensibilités moyennes qui demeurent attachées à des valeurs traditionnelles, éthiques, morales, narratives, rhétoriques, romanesques, dramaturgiques, indiscutées et ressassent à l'infini ce qui est sans résistance admis de tous. À cet égard, la plupart des récits filmés contemporains reproduisent l'efficacité visuelle et narrative des spots publicitaires. Ceux-ci sont devenus en quelque sorte des lieux d'expérimentation sophistiqués pour la mise au point des produits de la plus haute technologie culturelle. Leur modernité est acceptée de tous et fascine même les cinéastes les plus créatifs et les plus personnels. Eisenstein, où est-il aujourd'hui ? S'est interrogé par exemple Jean-Luc Godard qui répond « Il est dans les Badim ». Les spots accélèrent ainsi la vitesse générale du récit filmique. De proche en proche, ils déterminent le style des narrations télévisées américaines, lesquelles à leur tour l'imposent au monde entier, car le modèle télévisuel américain reste largement dominant. Les États-Unis exportent annuellement plus de 200 000 heures de programmes, ce qui représente environ 75% de l'ensemble des exportations mondiales d'émissions télévisées. Et Marshall McLuhan, dans les années 1960, précisait « Quand vint le cinéma, la totalité du mode de vie américain devint, à l'écran, une interminable publicité. Tout ce que les acteurs et les actrices portaient, mangeaient ou utilisaient devenait une réclame comme on n'aurait jamais espéré en inventer. L'américanisation, donc, pénètre en nous par les yeux, avec la redoutable efficacité d'une propagande silencieuse. » D'où l'urgence d'apprendre à nous méfier des images itératives, rabâchées, que le cinéma et la télévision nous donnent d'ordinaire à mastiquer, à ruminer, comme une sorte de sucrerie pour l'esprit ou un chewing-gum visuel. Diderot affirmait « Je suis plus sûr de mon jugement que de mes yeux. C'est avec une défiance semblable que nous avons parcouru parfois avec émotion les cités fantômes étudiées dans ce livre. »
Oui. C'est la fin de l'introduction, et comme dans tout bon essai critique, l'auteur et le lecteur savent désormais où ils vont. En ce qui nous concerne, nous allons choisir, parmi les analyses d'Inacio Ramonet, quelques exemples de références, après avoir rappelé le schéma de la manipulation des masses. Et d'abord, petit retour aux définitions, la télévision et Internet.
Télévision et Internet. Les sociologues disent de la télévision qu'elle a trois fonctions : informer, éduquer et distraire. Et ce qu'ils critiquent essentiellement de la télévision en tant que média de masse, c'est cette dernière fonction, distraire. C'est même l'objet principal de ce livre. La distraction pouvant devenir aliénation, crétinisation, abrutissement, et conduire à la décérébralisation collective, à la domestication des âmes, au conditionnement des masses et à la manipulation des esprits. Mais aujourd'hui, la crainte centrale, c'est que, avec Internet, les trois principales fonctions de ce nouveau média cybernétique soient devenues annoncer, vendre et surveiller. Annoncer, parce que l'économie d'Internet est essentiellement de nature publicitaire. La culture de la gratuité de la toile n'est possible que parce que des annonceurs assurément les coûts du... La culture de la gratuité de la toile n'est possible que parce que des annonceurs assument les coûts de fonctionnement du système, que celui-ci répercute sur les achats effectués par les internautes. Vendre. Parce que tel est désormais l'objectif principal du média Internet. C'était déjà celui des médias traditionnels lorsqu'ils faisaient de la publicité, dans les journaux, à la radio ou à la télévision. Mais la différence capitale est qu'avec les autres médias, on ne pouvait pas directement acheter. Si je vois dans un journal une publicité pour un produit ou un service qui m'intéresse, il ne m'est pas possible de l'acquérir immédiatement en me servant du journal. Je ne peux le faire que via un autre moyen de communication ou un autre intermédiaire. Alors qu'avec Internet, la même machine, l'ordinateur, qui me permet de surfer sur le net et d'y prendre contact avec la publicité, me sert directement à choisir, à commander, à payer, bref, à acheter le produit ou le service en question. Surveiller. Parce que chaque manipulation sur la toile laisse une trace, peu à peu l'internaute, à son insu, dessine son autoportrait en termes de centre d'intérêt, culturel, idéologique, ludique, consommatoire. Et, une fois ce portrait établi, il n'aura plus aucun secret pour les maîtres d'Internet qui sauront ce qu'il aime lire, par exemple, écouter, regarder, boire, manger, consommer, fréquenter, etc. Et pourront le manipuler à leur gré.
À leur gré, voilà. Mais revenons à la première fonction de la télévision ou des médias, informer. En fait, grâce à la publicité et à la consommation qui en résulte, l'information peut être offerte gratuitement.
Les médias sur Internet l'offrent en quelque sorte comme produit d'appel. Il y a à l'heure actuelle plus de 3000 journaux en accès libre et gratuit sur Internet, sans compter les stations de radio et les chaînes de télévision. Et si l'information est offerte gratuitement, pourquoi les patrons des médias devraient-ils dépenser énormément pour se la procurer ? Ils ne veulent plus payer trop cher un produit qu'ils vont ensuite brader ou proposer pour rien. C'est pourquoi ils se contentent de plus en plus d'une information au rabais, dont la qualité n'a cessé de se dégrader partout au cours des dernières années. D'autres facteurs expliquent encore ce déficit de qualité. En particulier, la spectacularisation et la recherche du sensationnel à tout prix qui peuvent conduire à des aberrations, à des mensonges et à des trucages favorisant de nouvelles manipulations psychologiques. Les médias, désormais, ne s'adressent pas à nous pour nous transmettre des informations objectives, mais pour conquérir notre esprit. Comme le disait déjà Goebbels, nous ne parlons pas pour dire quelque chose, mais pour obtenir un certain effet. D'où l'importance de la persuasion clandestine et de la propagande secrète. Car sur le long terme, pour tout empire désirant durer, le grand enjeu consiste à domestiquer les âmes, à les rendre dociles puis à les asservir. Maximiser le pouvoir en subordonnant furtivement les groupes et les individus, tel est le dessein de toute propagande. Dans les sociétés contemporaines, libres et démocratiques, ces manipulations psychologiques doivent viser en même temps l'individu et la masse. Elles sont donc forcément sophistiquées et hautement scientifiques. C'est à partir de la connaissance de l'être humain, de ses tendances, de ses désirs, de ses besoins, de ses mécanismes psychiques, de ses automatismes et aussi bien de la psychologie sociale que de la psychologie des profondeurs, que le propagandiste organise peu à peu ses techniques. Dès les années 1950-1960, C'est aux États-Unis que pour la première fois, dans une société démocratique libre, entre guillemets, a été mise au point l'orchestration de tous les modernes moyens techniques d'intimidation mentale. Télévision, radio, presse, cinéma, publicité, affiches, aucun aspect de la vie intellectuelle, émotive ou sentimentale ne fut laissé en repos. L'homme était censé de tout, était cerné de toutes parts, ce qui ne tarda pas à être dénoncé par des intellectuels comme Herbert Marcuse, qui, ayant connu la puissance de propagande du nazisme, se révolta contre la puissance répressive de la société de consommation. Cela se traduit par la production accélérée d'un vaste déchet, l'obsolescence planifiée, les gadgets. Les luxes deviennent des nécessités que l'individu, homme ou femme, doit acquérir sous peine de perdre son statut sur le marché compétitif, au travail et dans les loisirs. Cela, à son tour, aboutit pour lui à la perpétuation d'une existence vouée tout entière aux performances aliénées, déshumanisées, à l'obligation d'obtenir un pouvoir d'achat adéquat, en trouvant et en conservant un emploi qui reproduise l'asservissement et le système d'asservissement. En 1989-1991, l'Amérique a gagné la guerre froide par chaos face à l'Union soviétique, entraînant la chute du mur de Berlin et, KNKA, la démocratisation des régimes d'Europe centrale et orientale. Au plan géopolitique, les États-Unis se retrouvent placés dans une situation d'hégémonie que nul pays n'a jamais connue. Militairement, leur force est écrasante. Ils sont non seulement la première puissance nucléaire et spatiale, mais également maritime. Ils sont les seuls à posséder une flotte de guerre dans chacun des océans et des principales mers du globe et disposent de bases militaires, de ravitaillement et d'écoute dans tous les continents. Ces espions sont actifs partout, tout le temps, chez leurs amis comme chez leurs ennemis. Ils volent non seulement des secrets diplomatiques et militaires, mais surtout, depuis 1989, des secrets industriels, technologiques et scientifiques.
Alors,
pourquoi une si écrasante suprématie militaire, diplomatique, économique et technologique ne suscite-t-elle pas davantage de critiques ou de résistances ? Parce que l'Amérique exerce de surcroît une hégémonie dans le champ culturel et idéologique. Elle détient la maîtrise du symbolique qui lui donne accès à ce que Max Weber nomme la domination charismatique.
Oui, c'est donc ainsi que l'on revient au cinéma. Pour dominer l'idéologie comme les comportements des individus et des masses, il faut d'abord dominer leur imaginaire. Et dominer l'imaginaire, c'est le projet des films et des séries de Hollywood. C'est le projet du système cinématographique américain.
L'Amérique peuple nos rêves d'une foule de héros médiatisés, chevaux de Troie de l'oppresseur dans l'intimité de nos cerveaux. En 1989, par exemple, année des 9 millions d'entrées d'Astérix, les quelques 600 films français diffusés dans les salles ont réuni moins de 30% des spectateurs en France, les autres étant allés dans leur majorité voir des films produits par Hollywood. Or, on sait que, au-dessous de la barre des 25% de spectateurs, une production nationale cesse d'exister.
Oui, c'est par exemple ce qui est arrivé au cinéma polonais, britannique, italien et même allemand dans les 20 dernières années.
Alors qu'elle n'achète par exemple que 1% de films à l'étranger, l'Amérique inonde le monde des productions d'Hollywood. Si les films américains réalisaient 33% de leurs recettes à l'étranger en 1982, ce taux atteint 55% en 1997. Et 80% en l'an 2000. De surcroît, selon l'Observatoire de la diffusion, 3 fois plus de films américains bénéficient en France de sorties massives. Un long métrage hollywoodien dispose en moyenne de 2 fois plus d'écran qu'un film français.
Oui ?
Excusez-moi, j'ai perdu la page. C'est pourquoi il est urgent de se souvenir du cri d'alerte lancé jadis dès 1931 dans Le meilleur des mondes par Aldous Huxley. Celui-ci y soutenait qu'à une époque de technologie avancée, la propagande secrète disposait de 1000 atouts ultra sophistiqués pour nous influencer, et que le plus grand danger pour les idées, la culture et l'esprit risquait donc davantage de venir d'un ennemi au visage souriant et doucereux que d'un adversaire inspirant la terreur et la haine. C'est pourquoi il nous faut craindre à présent que la soumission et le contrôle de nos esprits ne soient pas conquis par la force mais par la séduction, pas sur ordre mais par notre propre souhait, pas par la menace de la punition mais par notre propre soif de plaisir.
Oui, c'est ce que disait déjà La Fontaine. La Fontaine nous disait que les loups les plus dangereux, c'étaient les loups doucereux. Alors on retrouve cet adjectif là chez Ignacio Ramonet. Quand il nous a dit ça, avec ses références à Huxley, il nous guide en fait vers l'analyse d'un autre outil privilégié de propagande silencieuse, c'est la publicité. Donc en fait, avec le cinéma, la publicité, ou avec la publicité et le cinéma, c'est vrai que l'audiovisuel est sans doute le mass média qui fait passer le plus facilement un certain nombre de messages cachés. Donc, Ignacio Ramonet étudie de façon détaillée les objectifs du marketing, de la publicité, et en particulier, il étudie de façon très détaillée et très circonstanciée les spots publicitaires.
La publicité se voulant un art de persuader, chaque spot est extrêmement élaboré. Les spots, estime Jean-Luc Godard, sont les seuls films efficaces et bien faits. Il procède d'un travail de recherche, de sondage et d'enquête considérable. Il résulte souvent de la collaboration de spécialistes éminents et doués, appartenant à des disciplines fort diverses, sociologues, psychologues, sémiologues, linguistes, graphistes, décorateurs, musiciens, en plus des créateurs cinématographiques proprement dits. Une telle conjonction d'expertise, de talent et d'efforts fait dire à Marshall McLuhan: il n'y a pas d'équipe de sociologues capable de rivaliser avec les équipes de publicitaires dans la recherche et l'utilisation de données sociales exploitables. Les publicitaires consacrent chaque année des milliards de dollars à la recherche et à l'examen des réactions du public, et leur production est une extraordinaire accumulation de données sur l'expérience et les sentiments communs de toute société. Les films publicitaires un genre discret. Dans les salles, il n'est pas annoncé. Sur les chaînes, les programmes de télévision n'en font guère mention. Cette discrétion, qui paraît contraire à son opiniâtre souci d'efficacité, se révèle nécessaire pour se faire accepter. Sa légitimité sur les écrans est à ce prix, car il s'agit effectivement d'une propagande silencieuse. Une telle retenue permet d'autre part aux spots publicitaires de se dissimuler dans le maquis des programmes, d'y être naturellement comme un poisson dans l'eau. Les pubs, note Patrick Bezenval, visent davantage à faire partie de la télé qu'à être perçues comme des émissions. Dans la structure de chaque film publicitaire, on peut distinguer deux parties distinctes et dissociables: le support fictionnel et le message commercial. La première partie du spot, la microfiction, est souvent un exercice filmique de grande virtuosité que l'on peut apprécier indépendamment du message commercial. Celui-ci, d'ailleurs, se trouve généralement relégué à la fin du film. En quelques dizaines de secondes, un film publicitaire peut utiliser autant de modes d'expression qu'un long métrage commercial. Sa richesse fascine et mystifie, car la forme, le style d'un spot constitue l'écrin visuel du produit, comme l'emballage qui met en valeur un objet. La mise en scène du spot relève du conditionnement. Cette richesse de forme constitue une impression trompeuse. En étudiant formellement les spots télévisés, on s'aperçoit qu'en matière de langage cinématographique, il repose sur un usage presque exclusif du gros plan. Seul crée une impression de mobilité, de très brefs et vifs zooms afin de mieux cadrer les gros plans. Ces changements rapides, ces crépitements d'image fonctionnent, d'autre part, comme des stimulations visuelles. Elles fixent le regard par leur rythme haletant et le clignotement de la lumière. La vitesse de défilement des plans est telle qu'écarter les yeux du téléviseur, ne serait-ce qu'une demi-seconde, ferait rater au moins un plan. Cette vitesse constitue donc un moyen de rendre le regard captif et de provoquer un effet d'hypnose. Placé dans ces conditions, bercé par les musiques d'ambiance des spots, le téléspectateur perd en partie sa personnalité consciente. Ses résistances mollissent, sa volonté et son discernement se réduisent, il devient plus réceptif aux suggestions. Suggérer, c'est signifier sans dire, surtout lorsque celle-ci renvoie directement à tout ce qui est du registre de l'affect. Les spots provoquent ainsi une sorte de somnambulisation. La multiplication des films publicitaires, leur prolifération, entraîne non seulement une réduction du langage cinématographique, mais une uniformisation des structures et des formes esthétiques utilisées. Et cette standardisation langagière, lorsqu'elle s'étend au long métrage, rend beaucoup de films monotones et réitératifs, tout en facilitant la lecture et l'assimilation des récits filmés. Conséquence, tous les films finissent par se ressembler. Le style des spots publicitaires, qui détermine d'abord celui des émissions télévisées, a été, en fin de compte, largement adopté par les films artistiques de long métrage. Et il devient de plus en plus difficile de distinguer par leur forme des œuvres de réalisateurs différents.
Eh oui, et quant à leur contenu, les spots publicitaires sont souvent créés dans l'objectif de s'adresser en priorité aux enfants. Donc, c'est vrai que la publicité, dans toutes ses formes, s'adresse aux enfants. C'est encore plus vrai pour les spots télévisuels ou éventuellement les spots qu'on va retrouver au cinéma.
C'est leur aspect spectaculaire qui sans doute séduit les enfants, grands amateurs de spots comme on sait. Les enfants sont surtout sensibles à la forme et au rythme du spot et moins à son objectif commercial. Mais ils retiennent les slogans et les comptines et deviennent des sortes de répétiteurs, des relais, des chambres d'écho, reproduisant inlassablement les formules de la pub, entendue. Les formules entendues, d'accord. Ensuite, au centre commercial, l'enfant deviendra la voix de la publicité dans l'oreille de ses parents. Les enfants ont une cible privilégiée des publicitaires. Il n'est pas étonnant que, selon une estimation du Syndicat national de la publicité télévisée, les annonceurs aient dépensé plus d'un milliard de francs en spots destinés aux enfants de moins de 14 ans. L'Institut de l'Enfant, société d'études dotée d'un panel de 1500 familles, estime qu'environ 45% de la consommation familiale, soit 500 à 600 milliards d'euros par an, est plus ou moins directement influencée par des désirs enfantins. La vie des 4-10 ans joue surtout sur l'alimentaire, la confiserie, le textile, les jouets, estime Joël Yves Le Bigot, présidente de cet institut, mais ils influencent aussi 18% des achats de voitures et 40% du choix des lieux de vacances.
Eh bien, pour un message publicitaire caché dans une chanson, on va retrouver France Gall et Serge Gainsbourg dans Les Sucettes.
I need it. tard la nuit. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux.
Les liens entre publicité, film et consommation ne sont plus à faire. Mais si vous êtes intéressé, Ignacio Ramonet étudie de façon très précise les différents types de spots, leurs moyens d'action et surtout leurs objectifs. En effet, les images promettent toujours la même chose, le bien-être, le confort, l'efficacité, le bonheur et la réussite. Elles font miroiter une promesse de satisfaction. Les spots vendent du rêve, ils proposent des raccourcis symboliques pour une rapide ascension sociale. Ils diffusent avant tout des symboles et établissent un culte de l'objet, non pour les services pratiques que celui-ci peut rendre, mais pour l'image qu'il permet aux consommateurs de donner d'eux-mêmes. Ils montrent une vie rêvée, mais aussi une vie bien ciblée par des messages politiques. Et des messages politiques, eux aussi, de plus en plus, réalisés par des publicitaires.
Les grandes firmes publicitaires spécialisées dans les spots électoraux des candidats à la Maison Blanche déterminent désormais davantage que les idées politiques proprement dites les compétitions électorales américaines. Présents sur la constellation des chaînes locales, des stations par câble, des circuits fermés vidéo et sur leurs sites internet, les candidats s'affrontent dorénavant dans le champ des médias à coups de spot. Et c'est souvent le meilleur spot que les électeurs téléspectateurs choisissent, négligeant de considérer le reste, c'est-à-dire l'essentiel, le programme politique du candidat. À ce propos, dans son livre intitulé 99F,
non, 99 francs.
Frédéric Beigbeder écrit « Les dictatures autrefois craignaient la liberté d'expression, censuraient la contestation, enfermaient les écrivains, brûlaient des livres controversés. Le bon temps des vilains autodafés permettait de distinguer les gentils des méchants. Le totalitarisme publicitaire, c'est bien plus malin pour se laver les mains. Ce fascisme-là a retenu la leçon des ratages précédents. Pour réduire l'humanité en esclavage, la publicité a choisi le profil bas, la souplesse, la persuasion. Nous vivons dans le premier système de domination de l'homme contre lequel même la liberté est impuissante. Au contraire, il mise tout sur la liberté, c'est là sa plus grande retrouvaille. Toute critique lui donne le beau rôle, tout pamphlet renforce l'illusion de sa tolérance doucereuse. Il vous soumet élégamment.
Oui, mais attention, souligne Beigbeder, tout n'est pas permis. Gare à toi si tu fous le bordel. Eh oui, on le sait bien, si la persuasion ne joue plus, c'est la force qui intervient. Mais on préfère quand même hypnotiser.
Dans un tel monde, remarque à son tour avec ironie Marshall McLuhan, la liberté démocratique consiste en grande partie à oublier la politique et à s'inquiéter plutôt des périls qui nous font courir les pellicules, les poils disgracieux, les intestins paresseux, les seins affaissés, les déchaussements des dents et le sang fatigué. À long terme, par accumulation, les spots, quoique concurrents sur les marques, finissent par tenir un discours identique sur les valeurs communes. Tous répètent et accréditent les grands mythes de notre temps. Modernité, jeunesse, bonheur, loisirs, abondance. Ils organisent ainsi un environnement culturel où les mêmes idées-forces reviennent constamment. La femme, par exemple, reste enfermée dans une parole qui le plus souvent ne la reconnaît que comme objet de plaisir ou sujet domestique. Elle est traquée et culpabilisée, rendue responsable de la saleté de la maison ou du linge, de la détérioration de sa peau et de son corps, de la santé des enfants et de la propreté de leurs fesses, de l'estomac du mari et des économies du foyer. Au bureau ou à la cuisine, sur une plage ou sous la douche, sa dépendance ne varie pas. Elle demeure esclave du regard du maître. L'homme la jugera quoi qu'elle fasse. Et même si elle se libère par son travail à l'extérieur, il surveillera le hâle de sa peau, l'odeur de ses aisselles, la brillance de ses cheveux, la fraîcheur de son haleine, le relief de son soutien-gorge ou la couleur de ses collants. Structurellement réducteur, le film publicitaire relève d'une industrie de la conscience qui recourt volontiers à des stéréotypes pour offrir une vision condensée, schématique, simple de la vie. Il circonscrit des ensembles immuables au sein de la diversité sociale et fonctionne comme un instrument d'asservissement. Il est normatif, impose des modèles de comportement, dicte des attitudes collectives. Il ignore les affrontements politiques, nie l'existence des conflits, euphorise la conjoncture, futilise les problèmes et acculture sans répit.
Aliénation et acculturation, c'est ce qui nous attend par l'assimilation des messages publicitaires et cinématographiques, même cachés. Ces messages cachés, Ignacio Ramonet les révèle également dans l'analyse de films hollywoodiens connus qui appartiennent essentiellement à des genres mondialement diffusés, par exemple les films d'épouvante et les films catastrophes. Il fait ressortir comment, sous le couvert de simples aventures toujours différentes, les messages sous-jacents perdurent. Ce sont toujours les mêmes choses.
Lorsque, à partir du jeudi 29 octobre 1929, l'économie du plus puissant État capitaliste est disloquée par le krach de la bourse de New York, plongeant le pays dans l'abîme d'une crise économique sans précédent et provoquant brutalement une considérable augmentation du chômage, les États-Unis connaissent un phénomène surprenant. La reprise spectaculaire des affaires cinématographiques, le plein épanouissement d'Hollywood. Ayant trouvé habilement la parade, une riposte à la crise et à la fois une sorte d'antidote contre le pessimisme qui pourrait s'emparer de la population, Hollywood apparaît au début de la Grande Dépression à l'abri des faillites et des banqueroutes qui dans l'ensemble du pays se répandent en traînées de poudre. Un tel essor ne laisse pas indifférents les financiers et en peu de temps, la Chase National Bank du groupe Rockefeller et l'Atlas Corporation du groupe Morgan prennent le contrôle des 8 plus importantes compagnies cinématographiques de Hollywood, se rendant ainsi maîtresse du cinéma américain. Dès le début de cette grande crise économique qui lance sur les routes de l'Amérique des millions de sans-travail, toute la production hollywoodienne se retrouve contrôlée financièrement par des banquiers et politiquement par des puritains. Ce double contrôle explique pourquoi les films américains, surtout durant les années les plus noires de la crise, qui coïncide avec le mandat du président Herbert C. Hoover 1929-1933, ont très rarement abordé directement les problèmes politiques de la société et de l'homme américain. Plus que jamais, en ces temps d'anxiété et d'angoisse, il fallait que Hollywood fût une fabrique d'espoir, une usine à rêves ou à cauchemars. L'ombre de la crise favorise déjà l'essor d'un genre de film nouveau où la dépression s'inscrit en creux dans le récit de façon évidente. C'est le film de gangster ou film noir. C'est un autre genre, né également de la crise, que nous aimerions rappeler. Un genre plus névrotique, destiné à la population urbaine, composée en grande partie de familles immigrées d'Europe, venues aux États-Unis en quête de l'Eldorado, et qui se voit soudainement replongée dans la déchéance et l'angoisse de survivre. un genre conçu pour s'adresser à ces Américains qui, ayant traversé dans l'euphorie les Roaring Twenties, les joyeuses années 1920, convaincus que rien ne pourrait jamais freiner leur irrésistible prospérité, avaient vu terrifier la panique et le désarroi s'installer dans leur foyer. Traduisant mieux qu'aucun autre la psychologie de la crise, ce genre, c'est le cinéma d'épouvante.
Le cinéma d'épouvante ou les films d'horreur. Dracula, Frankenstein, L'île du docteur Moreau, Les chaises du comte Zaroff, et puis King Kong. Donc, les films qui font peur, finalement, avec leurs créatures et leurs monstres inhumains, rendent la rue terne dans sa banalité, presque hospitalière. Par rapport à l'effroi que distillent ces films, la misère semble soudain plus aimable, presque, tolérable, bref, supportable.
Par ses moyens brutaux et cependant poétiques, le cinéma d'épouvante va canaliser l'angoisse et l'égarement des spectateurs. Il va les dévier, les attirer à lui, les laisser exploser dans des cris de terreur, pour finalement les dompter grâce à l'inévitable happy end et à la comparaison avec une réalité ambiante qui, quoique difficile, ne sera jamais aussi terrifiante que l'imaginaire de ces cauchemars filmés. Remarquons au passage qu'à la faveur du climat de détresse créé par la crise des années 1970, la plupart de ces fictions furent à nouveau portées à l'écran dans des remakes. Toutes ces fictions terrifiantes représentent pourtant mieux que n'importe quel film social l'imaginaire effrayé d'une Amérique frappée par une névrose d'angoisse. Ces films répondent en les hystérisant aux peurs de l'époque. Ils constituent de véritables rites de dépossession auxquels les spectateurs participent pour se délivrer de leurs obsessions quotidiennes, travail, argent, santé, subsistance.
Oui, c'est un peu comme la catharsis des tragédies antiques, enfin la tragédie grecque, sa catharsis, c'est le malheur que l'on présente pour repousser le malheur du quotidien.
La crise des années 1970, pour n'être pas moins ample que celle de 1929, n'en avait pas cependant les mêmes caractéristiques, car le système économique était alors moins anarchique qu'avant 1930. À la crise économique étaient venus s'ajouter sur le plan intérieur deux autres bouleversements considérables. La défaite militaire, la première de l'histoire des États-Unis au Vietnam et au Cambodge, ainsi que l'extraordinaire scandale du Watergate qui conduira finalement à la destitution du président Richard Nixon. Ainsi, la décennie arrogante des années 1960 venait s'échouer à la stupéfaction du plus grand nombre sur le chômage, la défaite et le scandale. Soudain, trois certitudes, trois piliers de la puissance américaine étaient ébranlés. L'omnipotence de l'armée, l'exemplarité du président et l'invulnérabilité du dollar. L'effet cumulé et diffus de ces fractures successives trouve à l'écran une illustration naïve et primitive dans des fictions d'un genre nouveau, les films catastrophes.
Oui, les films catastrophes, vous les avez vus, c'est l'aventure du Poséidon, la tour infernale. Par exemple, riche en coups de théâtre, ponctué de morceaux de bravoure et de scènes inattendues, attendrissantes ou tragiques, l'aventure du Poséidon, c'est un exemple de romanesque populaire qui sait multiplier chez le spectateur les émotions nées du suspense. Et en tant que récit, il fonctionne sur un modèle mythique dont la signification ou le dessein serait de soustraire l'homme et ses valeurs à la dégradation, en soutenant l'idée que les forces de l'esprit peuvent, si on le veut vraiment, renverser les forces matérielles.
En période de crise, la fonction de la catastrophe apparaît donc évidente. Elle permet de proposer au spectateur qui en a absolument besoin pour son identité au moment où toutes les certitudes vacillent, un mythe de sa fin. De même, quand d'autres temps on lui avait proposé des mythes d'origine, par exemple les westerns dont il ne faut donc pas s'étonner qu'ils disparaissent par temps de crise. Toutes les descriptions complaisantes de calamités, qui peuvent être de trois ordres, naturelles, accidentelles ou criminelles, exorcisent une peur panique, celle ancestrale de la fin du monde. C'est d'ailleurs pourquoi
à la fin des années 1990, à l'occasion de la fin du siècle et du millénaire, dans des circonstances économiques tout à fait différentes, euphorie financière, chômage presque inexistant, croissance forte, l'Amérique a vu refleurir une nouvelle génération de films catastrophes.
Oui, donc à ce moment-là, les films catastrophes, c'est Independence Day, Jurassic Park, Titanic, Godzilla, des grands blockbusters, évidemment, tout le monde les a vus. Et...
Car toutes ces fictions s'élaborent sur un fond obscurantiste de paranoïa collective. Chaque catastrophe est certes perçue comme une faille de la raison, mais surtout comme une défaillance inexcusable de la technique et par conséquent un sabotage. Si la machine civilisationnelle occidentale américaine se détraque, c'est parce qu'il y a une cause précise, nous disent les films. Il faut donc proposer un responsable. Les films catastrophes des années 1970 s'en chargent symboliquement. Tout accident devient alors attentat, le hasard lui-même n'est en vérité que subversion. Ces aspects, parmi d'autres, prouvent bien que par-delà leurs anecdotes distractives, les films catastrophes proposent aussi des réponses politiques à l'issue d'une crise. Dans leur naïveté mythique, ces films, presque clandestinement, distillent un silencieux message. Leur souhait profond de voir des appareils comme l'armée ou la police ou des hommes providentiels prendre en main la restauration, la reconstruction d'une société en crise, même s'il faut pour cela sacrifier partiellement la démocratie.
Je vous laisserai le plaisir, si vous en avez envie, de lire les pages qui se tournent vers les autres types de films, en effet, le western, les films de guerre, etc., et aussi vers les séries télévision très connues, par exemple Columbo. En fait, dans l'analyse d'Ignacio Ramonet, tout est intéressant. Je préfère toutefois, et pour m'acheminer vers la conclusion, rester sur cette idée de propagande politique telle qu'elle est très bien énoncée dans la postface. Postface qui s'appelle « Mensonge d'État ». Ignacio Ramonet, il démontre comment le pouvoir en place, Lyndon Johnson, George W. Bush, Dick Cheney, la CIA, l'Espagnol Aznar, l'Italien Berlusconi utilisent les grands médias pour transmettre leurs mensonges d'État. Les exemples les plus flagrants étant évidemment la justification des guerres extérieures.
C'est l'histoire du voleur qui crie « Au voleur !» Comment pensez-vous que M. George W. Bush intitula le célèbre rapport d'accusation contre M. Saddam Hussein qu'il présenta le 12 septembre 2002 devant l'Assemblée générale de l'ONU, une décennie de mensonges et de défis. Et qui affirmait-il en égrenant des « preuves » entre guillemets, un chapelet de mensonges. L'Irak, disait-il en substance, entretient des liens étroits avec le réseau terroriste Al-Qaïda et menace la sécurité des États-Unis parce qu'il possède des armes de destruction massive, ADM, une expression terrifiante forgée par ses conseillers en communication. Après la victoire des forces américaines et de leurs supplétifs britanniques en Mésopotamie, nous savons que ces affirmations dont nous avions mis en doute le bien fondé étaient fausses. Il est de plus en plus évident que l'administration américaine a manipulé les renseignements. L'équipe des 1400 inspecteurs de l'Iraq Survey Group n'a toujours pas trouvé l'ombre du début d'une preuve. Et son chef, David Kay, a démissionné avec fracas en janvier 2004, en déclarant qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive et que selon lui, il n'y en avait jamais eu. Nous commençons à découvrir qu'au moment même où M. Bush lançait de telles accusations, il avait déjà reçu des rapports de ses services d'intelligence démontrant que tout cela était faux. Selon Mme Jane Hartman, représentante démocrate de Californie, nous serions en présence de la plus grande manœuvre d'intoxication de tous les temps. Scandalisé par les manipulations et s'exprimant sous le nom du Veteran Intelligence Professionals for Sanity, un groupe anonyme d'anciens experts de la CIA et du Département d'État a affirmé le 29 mai 2003 dans un mémorandum adressé au président Bush que dans le passé des renseignements, avaient déjà été faussées pour des raisons politiques, mais jamais de façon aussi systématique pour tromper nos représentants élus afin d'autoriser une guerre. Dans un entretien au magazine Vanity Fair, publié le 30 mai 2003, M. Paul Wolfowitz a reconnu le mensonge d'État. Il a avoué que la décision de mettre en avant la menace des ADM pour justifier une guerre préventive contre l'Irak avait été adoptée pour des raisons bureaucratiques. Nous nous sommes entendus sur un point, a-t-il précisé, les armes de destruction massive, parce que c'était le seul argument sur lequel tout le monde pouvait tomber d'accord. Ainsi, la guerre aurait été déclenchée pour renverser le régime de Bagdad, s'emparer du pétrole irakien et remodeler le Proche-Orient. Les armes et les liens avec Al-Qaïda n'étaient que prétexte. Le président des États-Unis a donc menti, cherchant désespérément un casus belli pour contourner l'ONU et rallier à son projet de conquête de l'Irak quelques complices, Royaume-Uni et Espagne. Monsieur Bush n'a pas hésité à fabriquer l'un des plus grands mensonges d'État. Il n'a pas été le seul.
Oui, justement, c'est là en effet que les alliés des États-Unis et surtout les grands médias qui ont suivi ont repris le message du président.
Reprise et amplifiée par les grands médias, bellicistes transformés en organes de propagande, toutes ces dénonciations ont été répétées ad nauseam par les réseaux de télévision, Fox News, CNN, MSNC, la chaîne de radio Clear Channel, et même les journaux prestigieux comme le Washington Post et le Wall Street Journal. À travers le monde, ces accusations mensongères ont constitué l'argument principal de tous les va-t-en-guerre. Depuis la victoire controversée de M. Bush à l'élection présidentielle de novembre 2000, la manipulation de l'opinion publique est devenue une préoccupation centrale de son administration. Après les odieux attentats du 11 septembre 2001, elle s'est transformée en véritable obsession. M. Michael Cadiver, ami de M. Rumsfeld et spécialiste de la psy-war, la guerre psychologique, résume ainsi le nouvel objectif. La stratégie militaire doit désormais être pensée en fonction de la couverture télévisuelle, car si l'opinion publique est avec vous, rien ne peut vous résister. Sans elle, le pouvoir est impuissant. Le 20 février 2002, le New York Times dévoilait le plus faramineux projet de manipulation des esprits pour conduire la guerre de l'information. Le Pentagone, obéissant à des consignes de M. Donald Rumsfeld et du sous-secrétaire d'État à la Défense, M. Douglas Fess, avait créé secrètement et placé sous la direction d'un général de l'armée de l'air, Simon Worden, un mystérieux bureau de l'influence stratégique, OSI, Office of Strategic Influence, avec pour mission de diffuser de fausses informations servant la cause des États-Unis. L'OSI était autorisé à pratiquer la désinformation, en particulier à l'égard des médias étrangers. Le quotidien new-yorkais précisait que l'OSI avait passé un contrat de $100,000 par mois avec un cabinet de communication, Randon Group, déjà employé en 1990 dans la préparation de la guerre du Golfe. Officiellement dissous, après les révélations de la presse, l'OSI est certainement demeuré actif. Ivre de pouvoir, M. Bush et son entourage ont trompé les citoyens américains et l'opinion publique mondiale. Leurs mensonges constituent, selon le professeur Paul Krugman, le pire scandale de l'histoire politique des États-Unis. Et tout cela grâce au pouvoir des masses médias.
Et oui, passionnant de lire tous ces exemples. Le livre en foisonne et je vous y renvoie. Nous vous laissons jusqu'à la prochaine émission avec la musique entêtante de Ainsi parlait Zarathoustra dans Apocalypse Now, un autre film de guerre transmettant bien sûr quelques messages cachés.
here's a song that comes from Tanzania.
L'émission que vous venez d'écouter était une rediffusion. Radio Galère.